Bienvenue à la French Connection épisode 106. Cette semaine, je suis avec Damien.
Bonjour tout le monde.
Et Patrick.
Hey, salut tout le monde.
Commençons avec les shameless plugs. J'en ai quand même plusieurs cette semaine. 15 juin, journée multiple, le IAC, pour organisé par le HackFest dans plusieurs villes à travers le Québec et à travers le monde également. C'est très chouette. Est-ce qu'il y a des conférences cette année?
Oui, on a 3 ou 4 conférences. J'attends une dernière réponse pour une quatrième. On parle de OSINT, justement, avec Franck. Il va avoir une partie SDR, donc Software Defined Radio, avec une surprise, en fait, pour les participants. Et en format workshop, donc test, live, exercice et tout. Et le soir venu, c'est le CTF commun avec toutes les villes. Fait que cette année, on a Québec, Sherbrooke, Ottawa et encore une fois, la Colombie dans le sud.
Ouais. 7 au 9 octobre, Bizaka Québec organise un congrès international sur les opportunités et les défis des technologies émergentes, ce qui semble être très chouette. 1-2 novembre, le HackFest, le Upside Edition. Damien ne vous a pas mis dans l'ordre, fait que je reviens sur des choses qui seront un peu plus choses. Le 16 au 20 juin, Hack in Paris. Le Hack, le 6 juillet. Et on revient pour les choses un peu plus loin. Le Secure revient en 2020. Donc, commençons avec les nouvelles. Damien a découvert une base de données d'une 12 millions de Canadiens en vente libre sur les internets.
Oui, c'est bon, vous savez, hein, ma grande passion est d'aller regarder au-dessus de l'épaule de certains pirates qui vendent de la donnée. Et bon, j'ai une jambe hein, quasiment chez les cousins du Grand Nord. Hein, vous savez la passion que j'ai pour votre pays et puis pour votre gentillesse. Et puis donc, du coup, je me suis dit, tiens, il y a un business qui est en train de se faire autour d'une base de données. Alors, Monsieur X, hein, comme je vais l'appeler, l'a commercialisé au début. 45 $, donc ça fait une cinquantaine d'euros. Non, ça fait même une quarantaine d'euros, donc rien. Hein. Et surtout, il a annoncé 12 millions d'entrées donc dans cette base de données. Alors, je l'ai récupéré, ne me demandez pas comment. Soyons très clairs, je n'achète rien. L'éthiquement parlant, je m'interdis ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ce genre de population n'ira pas porter plainte si jamais on a joué un petit peu avec leur informatique. Toujours est-il que cette base de données récupérée, vous avez pu le voir, hein, tout de suite, on a alerté. J'ai analysé un petit peu son contenu, mais je n'avais pas votre visibilité. Et du coup, je vous l'ai transmise. Et je crois que Nicolas, tu as mis ton nez dans cette base de données. Et du coup, on a découvert la vie privée de Patrick, je crois.
Hein. Au complet.
Yes. Oui, super plate. Je suis désolé. Il est intéressant.
C'était très décevant, hein, je confirme. Et donc, du coup, Nico, tu as repéré quoi dans cette base de données?
Ça a été très intéressant de l'analyser parce que il y a peut-être 12 millions d'entrées, mais il n'y a pas 12 millions d'entrées uniques. Ce qui me semble apparent dans cette base de données-là, c'est qu'il y a un site au Québec, je crois, parce qu'il y a beaucoup d'adresses plus québécoises que canadiennes, qui fuit depuis déjà probablement plusieurs années, dans lequel la personne s'y réalimente une base régulière. La durée est impossible à se déterminer, mais de ce que j'ai vu des adresses courriels, j'ai vu des adresses courriels sur chez certains des clients que j'ai eu et que j'ai encore, des adresses sur des anciens formats, sur des nouveaux formats. Donc, elle est encore en vie, est encore alimentée de façon très récente, mais elle s'alimente depuis un certain temps. J'ai l'impression que c'est une source qui se réalimente constamment et il ne fait pas le ménage de cette source-là. Donc, c'est... intéressant, perplexant. J'ai aucune idée de où elle arrive parce que, contrairement à Patrick, moi, mes informations n'étaient pas dans la base de données. Donc, je ne peux pas corroborer c'est quel site qui est affecté, qui est la source de cette fuite-là. Donc, il va falloir des recherches un peu plus exhaustives pour alerter cette compagnie-là que sa base de données est en perpétuel ramassage par le dark web.
Alors, on rigolait, hein, y a pas les données de Patrick. Hein. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que ces vendeurs hein, du black market ont clairement un véritable état d'esprit de marketing et d'entreprise. On a poney, on a piraté, on a collecté des informations qui ont peut-être 2-3 ans et on fait un réassort. Hein. On fait comme dans les boutiques, on remet en rayon, on rafraîchit les données, ce qui prouve que, un, ils font que ça et donc ils en vivent. Et à première vue, celui que je vois, et, vous savez, hein, j'en surveille plus de 3000 partout dans le monde, hein, etc. c'est qu'ils en vivent bien, mais surtout, donc, ça veut dire qu'ils ont des acheteurs. Et donc, ces acheteurs veulent de la fraîcheur, veulent du produit frais. Et c'est très intéressant. Vous allez voir que d'ici peu, ils vont demander des produits vegan et bio. Hein.
Oui, ça veut surtout dire que leur connexion reste là vraiment longtemps. Ça, c'est pas bien pour les entreprises parce qu'ils ne détectent pas grand-chose. Ils ne savent pas.
C'est inquiétant parce que...
Ils payent des rançons puis ils se font avoir encore. Je sais
c'est
pas.
Ça. C'est ce qui est inquiétant, c'est que ce genre de données, là, le gars vendait plusieurs combos, plusieurs listes. Il les trie. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est ce qu'on va savoir dans 2-3 ans. Parce qu'il y a ce qu'il vend là aujourd'hui. Il y a ce qu'il a en main et qu'il garde en zéro day parce qu'il s'en sert pour lui et qu'il va revendre le jour où lui, il l'aura bien pressé comme un citron. Et là, c'est encore plus dramatique parce que tu as raison, hein, Patrick. Hein, toutes ces entreprises qui tous te disent, comme dans le dessin animé, « Eh, confiance !» Et le problème, c'est que tu n'as confiance de rien du tout parce que tu ne vois rien du tout, garçon, en fait.
Et ça me fascine vraiment qui est la compagnie qui fuite parce que j'ai des adresses, je te dirais que pour ce que j'en sais, il doit se réapprovisionner à peu près aux 3 à 6 mois dans cette base de données-là. Puis je ne sais pas dans quelle mesure il fait son ménage parce qu'il y a beaucoup de. J'ai des utilisateurs jusqu'à 4 adresses courriels de la même personne avec essentiellement toute la même information. Donc c'est facile à savoir qu'il l'a récupéré, mais je ne sais pas. Mais très fascinant. Disons, je vais y jeter un œil curieux pour voir qu'est-ce que je peux en tirer puis si je suis capable de remonter jusqu'à la source.
Là où je suis content, pardon, hein, mais c'est que Zataz a l'air efficace.
Absolument, absolument. Tout le crédit te revient à ce moment-là.
Merci Damien de surveiller les Canadiens.
Ah oui, ils me nourrissent bien, donc il y a un bon entendeur. Poutine, base de données, je m'en sors pas mal.
C'est un bon échange.
C'est un bon échange, je trouve. Je trouve ça très, très correct. Passons à la nouvelle suivante. Plusieurs associations et entreprises ont été infiltrées et piégées par des ransomware, même s'ils ont été informés d'avance.
C'est ça qui est fou. Hein. Vous avez tous entendu parler de ces codes volés à la NSA, à la National Security Agency, vous savez, les grandes oreilles de l'oncle Sam. On a tous entendu parler de WannaCry en 2017. On a tous entendu parler de ces fuites et de ces potentielles failles, dont la dernière, hein, BlueKeep, hein, qui en plus Microsoft au mois de mai a dit « Mettez à jour vos Windows XP ». Bon, ok, là, ça peut se tirer une balle dans la tête, mais bon, peu importe. Vos XP, vos Vista, vos 7, vos serveurs 2003-2008. Et donc, tous les gens qui ont écouté, qui ont lu, qui font donc de la veille, hein, les gars, vous êtes dans l'informatique, vous faites de la veille, rassurez-nous. Vous nous écoutez, mais vous faites une vraie veille pour votre entreprise. Je vais être honnête, j'ai comme un doute. Hein. Déjà, la NSA a annoncé qu'elle avait détecté 1 million de machines encore faillibles. Et chez nous, en France, cocorico, on est encore les meilleurs du monde. Eh bien, plusieurs associations, plusieurs entreprises, plusieurs fédérations de sport, comme la Fédération française de basketball, se sont retrouvées avec quoi ? Eh bien, avec cette fameuse faille. Et du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, leur serveur est chiffré par un ransomware. Et puis, tout le monde fait « Ouais, j'ai tout perdu mes données. Ouais, tout est chiffré. » Le problème, c'est que tout le monde était au courant. Tout le monde sait que ça se corrige. Le plus dramatique, et je prends l'exemple de cette Fédération française de basket, hein, qui est très importante, avec des gens de qualité en plus. Hein. Mais là, dans le communiqué de presse qu'ils ont diffusé, ils annoncent quand même des données bancaires. Ils annoncent aussi des numéros de sécurité sociale. Ils annoncent des noms. Ils annoncent des adresses. Ils annoncent des téléphones. Alors, OK, c'est chiffré par un dangereux et méchant ransomware. Sauf que je vous le rappelle quand même, c'est que les nouvelles versions envoient aussi les informations aux enfoirés qui sont en face. Donc, ça veut dire que toutes les données sont perdues. Bien sûr, on ne paye pas, alors qu'on a appris, on apprend encore aujourd'hui que beaucoup de sociétés payent. Il y a même des sociétés de cybersécurité qui payent sur le dos de leurs clients et qui refacturent derrière. Super, les gars, continuons à donc nourrir les cyberassaillants en face qui, eux, pendant qu'ils se foutent de notre gueule dans la joie et la bonne humeur, sont à l'île Maurice, sont aux îles Caïmans, sont peut-être pas très loin de chez vous, mais au soleil. Et pendant ce temps-là, vous les payez. Et surtout, vous les payez aussi bien numériquement en laissant vos données se faire chiffrer et après tout le monde pleure en se disant « Oh là là, nous avons subi une cyberattaque monstrueuse ». Non, non les gars, la mise à jour vous aurait protégé.
Ouais, je pense que c'est même un standard au Québec de payer. De plusieurs histoires qu'on entend, même certaines compagnies d'assurance recommandent de payer aux clients.
Et c'est dramatique parce que payer…
Ça les fait survivre puis ils continuent à le faire au lieu de changer de modèle. Oui. Et en même temps, c'est sûr que c'est une mise à jour là, pour ce type d'attaque-là. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui s'est moyen.
Alors qu'il suffit d'utiliser Shodan. Vous savez, c'est un petit moteur de recherche que n'importe qui peut utiliser. Comme vous n'êtes pas n'importe qui parce que vous nous écoutez. Cling! Puis là, vous avez ma dent qui vient d'exploser dans une petite lumière de joie et de bonheur. Mais plus sérieusement, putain, vous faites de la veille, vous surveillez, vous avez des gens compétents. Faites gaffe, ne pensez pas que ça n'arrive qu'aux autres. Parce que quand je vois, là, il y a une sublissime association hein, qui s'appelle les Clowns de l'Espoir. Génial, hein, c'est des gens qui sont adorables, qui s'occupent des enfants dans les hôpitaux, qui viennent les amuser, qui viennent leur donner un peu de joie. Je pense à des enfants qui sont, par exemple, en chimiothérapie et que vous voyez que l'association se fait prendre en otage par ce genre d'attaque où là, ils n'ont plus du tout accès à leurs feuilles comptables, à leur salaire, aussi bien aussi aux moyens de paiement des prestataires de services. C'est dramatique parce que s'il n'y a pas de copie de sauvegarde derrière, s'il n'y a pas cette hygiène numérique, comme on dit ici en France, à l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, merde, l'hygiène, elle n'est pas compliquée aujourd'hui en informatique. C'est juste aussi du bon sens. Et après, quand vous commencez à pleurer en disant « Oh là là, les méchants pirates nous ont attaqués. Oh, j'ai mal à mon cœur. » Non, t'as mal à ton cul, plutôt.
Non, t'as mal à ton portefeuille.
Pas mal partout, ouais.
Oh non, c'est tout ça, terrible. C'est démoralisant de savoir que les compagnies se foutent un peu de se foutent de nous, finalement. On est juste...
Mais je peux le comprendre, c'est des petites PME puis des gens d'organisations publiques où ils n'ont pas l'argent pour avoir un expert. Tu sais, t'as le sysadmin du coin qui ne connaît pas grand-chose, malheureusement. Mais pour des entreprises un peu plus sérieuses qui ont une vraie équipe de TI, il n'y a pas d'excuse.
Ce qui est terrible aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font appel à des sociétés qui se disent de cybersécurité. Je n'ai pas la prétention de savoir. Moi, je ne suis qu'une fouine, un journaliste qui est passionné du sujet depuis 30 ans. Je n'ai ni les connaissances de Patrick ni de Nicolas en cybersécurité, en cyberdéfense, voire même en cyberagression. Mais voilà, je vois énormément de sociétés qui vendent leurs prestations et qui disent « nous, on sait ». Et puis, je vais être très clair avec vous, je vais prendre l'exemple d'un article que j'ai diffusé la semaine dernière où j'ai une cyberboutique encore du black market qui vend plus d'1,5 million de Français via 209 boutiques. En gros, ils ont trouvé le moyen de voler via 209 boutiques françaises, et certaines sont très importantes, des données de leurs clients. Alors, à 90%, c'est du phishing. Il y a 10% par rapport au log que j'ai pu repérer qui me font dire que c'est de la SQL, par exemple. J'ai énormément de sociétés d'audit qui m'ont contacté en me disant « Damien, tu peux me refiler quelques informations pour que je puisse les transmettre à mon client ?» Ceux que j'aime bien et que j'apprécie, dont je sais l'éthique, et voilà, elle est là, même si c'est du business pour eux, ok. Mais il y en a un nombre où j'ai dit « Mais what the fuck ?» Mais démerdez-vous, les gars. Moi, je donne de l'actu. Nous donnons ensemble hein, de l'info voilà, pour que tout le monde s'éduque. Hein. S'informer, c'est d'abord sécuriser. Mais le nombre de ces sociétés qui n'y connaissent strictement rien, qui vendent de la poudre à perlimpinpin à ceux qui veulent bien payer, et puis après, qui viennent avec leur petite bouche, « Bonjour, tu peux me donner quelques informations pour que je puisse aider mon client ?» Ouais, ben non.
Ah, je pense que tu viens de décrire la majorité des entreprises de sécurité du coin. Ah, c'est dommage.
Mais bon, soyons honnêtes, il y en a aussi des très très bonnes. Hein. Il ne faut pas non plus jamais exagérer, mais on va dire que sur les 209 boutiques, j'ai eu une cinquantaine de boutiques qui m'ont contacté. Sur la cinquantaine, il y en avait une quinzaine. Pardon, vous êtes des grosses merdes.
Mais c'est parce que c'est un domaine tellement pointu que si tu n'as pas les connaissances, tu ne connais pas ça, une entreprise qui dit « je travaille en sécurité », tu vas le croire. Pourquoi il n'y aurait pas de raison de ne pas le croire? Mais malheureusement, il y a tellement de charlatans dans le domaine que ça crée ce genre de situation-là. Peu importe le créneau en sécurité, il y a une tonne d'entreprises qui, justement, sont là pour l'argent et c'est tout. Ouais.
Ah, ben, c'est le bout du marché capitaliste dans lequel on est, mais cela étant, dès qu'il y a de l'argent, les requins arrivent, fait qu'on ne s'en sort pas. Puis c'est un peu, un manque d'éducation du public en général qui est un peu un fardeau sur nous aussi. Là. On a une part de responsabilité à les éduquer, à les amener à comprendre, les amener à mieux saisir et donc, de ce moment-là, de plus se faire flouer parce qu'ils vont être minimalement éduqués. Donc, ils vont être capables d'être plus critiques et plus... c'est ça, critiques.
Et il y a aussi un gros problème dans les entreprises non cyber, hein, enfin en tout cas non cybersécurité, mais ces entreprises XY, PME ou grosses boîtes qui font appel donc à des pros, des professionnels, mais qui elles-mêmes déjà n'ont pas d'éducation, ne savent même pas du tout ce qu'elles ont besoin, quels sont véritablement les défis auxquels elles devront répondre, rien que déjà humain, personnel, éduquer son personnel, on en parlera tout à l'heure, mais de social engineering, mais aussi parler des multiples petits dangers, rien que déjà de ne pas faire une mise à jour. Voilà. Tout le monde se délègue un peu sans se tenir par la main, c'est une façon de parler, mais sans s'éduquer, sans se former. On sait très bien que le gros problème en cybersécurité et en informatique générale, c'est l'humain parce qu'il ne veut pas se mettre à jour, il a des problèmes de backup, et quand plus ça monte dans la hiérarchie, plus il dit qu'il n'en a pas besoin. Mais je vais être très honnête, hein, je pense qu'on est tous sur le même pied d'égalité face à des ennemis qui, eux, je ne veux pas exagérer, moi ça fait 30 ans que j'en parle, hein, mais face à des ennemis qui, dès qu'ils ont l'occasion, ils vont nous tondre.
Ah, il y a aucun scrupule. Les autres sont là pour faire de l'argent indépendamment. Puis en plus, la beauté du monde virtuel et numérique dans lequel on est, c'est qu'on a pas même, on ne sent pas le dommage qu'on fait à autrui. Ça devient des gens anonymes, on est détaché, on mercantile des zéros et des on échange de zéros et des uns, puis c'est tout. Il n'y a pas personne au bout de la ligne qui, en perception, est affecté humainement là-dedans. Quand dans les faits, il y a des crises majeures, il y a des gens qui perdent leur vie, il y a des gens qui perdent leur santé financière, même leur santé physique aussi, conséquemment. Donc, ça porte des conséquences très graves dans lesquelles, bien malheureusement, le fait d'être caché derrière un écran nous détache complètement. Donc, on a encore moins de scrupules que dans le vrai monde. Et donc, passons au social engineering que Damien a fait avec un exercice fort intéressant.
Ouais, bon, vous savez, ma passion hein, pour le social engineering, qu'il soit en français ou en anglais, c'est étonnant. Et donc, vous savez que j'arrête pas de le dire, mais le social engineering, c'est un entraînement perpétuel. Moi, je ne la cache pas. C'est un entraînement quotidien. Que ce soit en famille, avec mes filles, mon épouse, c'est quelque chose de super important. Et on enregistre ce numéro 105-106 le 8 juin. Voilà, comme ça, ça m'a obligé Nicolas à le diffuser rapidement. Mais plus sérieusement, le 7 juin, donc hier, je vais au travail, je me gare sur un parking et je vois un sac McDonald's, pour ne pas le citer, jeté dans le parking. Je pense que vous êtes tous comme moi, mais il y en a vraiment ras-le-cul hein, des porcs, hein, des gens sales. Enfin, toujours est-il que je vois ce paquet, je me dis, je vais le mettre à la poubelle. Je l'ouvre parce que je suis une fouine, hein, je ne cesse de le dire. Et au miracle, dedans, donc, j'ai effectivement ce que la personne a acheté, cet inconnu, des tickets que je repère. Donc, je vois des facturettes, hein, des tickets de caisse. Je vois un RIB et je vois plusieurs enveloppes, donc des enveloppes à carreaux transparents. Donc, je ne savais pas le propriétaire. Ça fait éventuellement le cachet de la poste, donc la ville, etc. Et une enveloppe avec un nom et un prénom. Jusqu'ici, je n'ai pas le propriétaire de ce paquet jeté. Hein, c'est du foutage de gueule. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais je commence à me dire, tiens, je vais m'entraîner avec ça. Je prends donc les facturettes et je repère les facturettes qui avaient moins de 24 heures. Au miracle, j'en avais deux qui dataient de la même journée, dont une du matin, d'un coiffeur. Je prends donc mon ami Google Maps et je tape le nom du coiffeur dans Google Maps. Et oh magie, le coiffeur était à moins de 150 mètres. Vous connaissez ma fainéantise, il aurait été à 200 mètres, j'y serais peut-être pas allé. Mais là, il était à 150 mètres. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai toujours dans mon sac un portefeuille vide. J'ai pris quelques cartes de visite, j'ai pris les tickets, les facturettes, j'ai pris l'enveloppe avec le nom et le prénom et j'ai mis 10 euros, hein, donc une quinzaine de dollars dans mon portefeuille. Et je suis allé voir qui ? Je suis allé voir le coiffeur avec mon plus beau sourire, hein, ma tête de débile comme je sais si bien le faire. Et je me suis excusé auprès de la patronne à qui j'ai demandé une rencontre rapide en lui disant « Écoutez, je crois que c'est à un de vos clients. » Parce que regardez, quand j'ouvre, et j'ai bien montré le billet de 10 euros, hein, surtout en montrant donc que je n'étais pas un voleur, il y avait bien un billet dedans. Et puis j'ai montré aussi un post-it. Parce qu'en repérant mes facturettes, j'avais donc vu que mon inconnu était venu chez ce coiffeur, on va dire aux alentours de 10 heures. Donc du coup, j'avais pris un post-it sur lequel j'ai marqué « Rendez-vous coiffeur » et j'ai mis 9 heures. Je me suis dit, il y a de fortes chances, vu le tarif, que c'est une femme. Pardon mesdames, mais c'est plus long chez vous et ça coûte plus cher. Donc du coup, mon inconnu était déjà plus un homme, mais une femme. Ça a checké presque avec mon enveloppe parce que sur l'enveloppe écrite à la main, c'était le prénom d'une femme, le prénom d'une femme. Je montre donc le document à ma patronne de coiffeur, elle me dit « Ah bah oui, elle est venue ce matin !» Là, autant dire que dans mon pantalon, ça faisait « Youhou, je commence à avoir une piste !» Et je lui dis « Écoutez, je vous laisse le portefeuille et vous la contactez. » J'ai repéré le numéro de téléphone de cette cliente sur le carnet de rendez-vous de la patronne. Qui, dans un effet de zèle, et moi, en faisant mon plus beau sourire, hein, on le fait en social engineering classique, Eh bien, tout simplement, elle m'a dit, mais attendez, je vais vous donner son numéro de téléphone portable, comme ça, vous allez pouvoir l'appeler. Et donc, du coup, je me suis retrouvé avec effectivement bien la bonne victime, si j'avais été dans du social engineering agressif, hein, avec son nom, son prénom, chouette, ça checkait avec l'enveloppe, avec deux numéros de téléphone, et puis donc avec éventuellement toute sa vie de cette dame. Pourquoi ? Parce que le numéro de téléphone portable était bien son numéro de téléphone personnel, mais le numéro de téléphone qui était sur le carnet de ma patronne de coiffeuse, ma coiffeuse, pardon, était l'entreprise de cette commerciale qui travaille dans une société de marketing. Imaginez que je veux totalement nuire à cette personne, eh bien, j'ai plus qu'à aller dans son entreprise en disant « Oh, je crois que X a perdu son portefeuille, je vous le rends », tout en montrant mon petit billet de 10 dollars, mon petit billet de 10 euros, et puis en laissant le portefeuille à l'accueil, qui va remettre dans la grande bonté ce portefeuille à cette personne, et avec une clé USB qui est à l'intérieur. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est un entraînement. Mais en fait, le plus compliqué, de toute façon, Patrick le dira, mais comme Nicolas, le plus compliqué dans un social engineering, c'est l'improvisation, essayer d'être le plus, on va dire, empathique avec sa cible, soyons très clairs. Mais dites-vous que la moindre donnée, hein, on appelle ça la rudologie, l'étude d'une poubelle. La rudologie, en France en tout cas, il faut savoir qu'une poubelle peut être fouillée. Moi, je peux aller dans la rue et prendre n'importe quelle poubelle. L'important, c'est que je ne la déverse pas dans la rue. Là, ça deviendrait illicite, ça deviendrait même punissable par une amende. Non, par contre, je peux la vider dans mon coffre de voiture. Et puis, je peux partir avec et je peux l'analyser. On appelle ça la science de la poubelle, la rudologie. Et dites-vous que ce que vous jetez dans vos poubelles, ça raconte l'intégralité de votre vie. Poubelle qu'on jette dans la rue. Alors, je vais dire que peut-être que cette personne était dans la précipitation, que son sac est tombé alors qu'elle souhaitait le mettre à la poubelle. Pourquoi je pense cette piste-là ? Parce que je trouve quand même que le coup des facturettes, du RIB et des enveloppes, ça fait plus une personne qui a voulu nettoyer sa voiture et mettre le colis à la poubelle. Mais le fait que ça tombe de la bagnole, elle se dit « Oh, bah tant pis !» ou qu'elle l'a vraiment jeté comme ça, ça parle une poubelle, énormément. J'appelle ça des pipelettes.
Absolument. On va arrêter de donner des pistes aux autres pour qu'il y ait des mauvaises idées. On va passer à la nouvelle suivante, qui est une compagnie USAID qui fait passer des informations, ou en tout cas frauduleuses, ou en tout cas faire croire à des gens des moins bonnes informations.
Oui, alors le social engineering, surtout ce que nous, on vous explique, c'est dites-vous que connaître l'ennemi, c'est le meilleur moyen de s'en défendre aussi. Hein. Bien sûr, je ne vous invite pas à aller commencer à interroger votre coiffeur ou votre coiffeuse pour récupérer le numéro de téléphone de cette superbe blonde ou de ce superbe brun que vous avez pu croiser. Mais plus sérieusement, oui, cette info, ça sera la dernière pour moi, hein, c'est un courrier qui est envoyé, alors en ce moment, pas mal en Europe et en France, d'une société qui s'appelle USAID. Alors au départ, je me suis dit, tiens, quel est le rapport avec le sida ? Parce que si je me souviens bien, ce logo et cette marque, entre guillemets bien sûr, correspond justement à la lutte contre le sida et la possibilité donc de faire des dons. Et donc, je commence à lire le courrier, puis on commence à m'expliquer que voilà, cette entreprise recherche pour son implantation à l'international eh bien, une cinquantaine d'emplois différents. Alors, ça allait de la comptable à la femme de ménage en passant par le directeur de service XY. Et je lis, puis on me dit, oui, c'est pour pouvoir intégrer un grand tirage au sort au Canada, pour pouvoir intégrer donc le Canada. Alors, autant dire que moi, j'ai regardé avec des énormes yeux, en me disant, mon Dieu, je ne vais donc pas être obligé de prendre mon petit canoë et venir un peu au noir, comme ça, au Canada, pour travailler chez Nicolas et Patrick. Non, plus sérieusement, c'est clairement de l'arnaque. Cette société n'existe pas. Elle est totalement fictive. Vous recevez un courrier qui est indiqué en objet « Vie de recrutement USAID de session 2019 et 2020 ». Et leur mission, c'est quoi ? Eh bien, c'est de collecter des CV, des lettres de motivation, des photos, des noms et des adresses d'étudiants en première vue avant tout, mais de tout le monde. C'est clairement aussi ça du social engineering. C'est commencer donc à s'intéresser à de futures cibles. Ah, vous êtes étudiant dans une école informatique, par exemple, ou en architecture, ou vous vous intéressez à l'environnement. Votre CV va parler déjà pour vous. N'envoyez pas ce genre d'informations à n'importe qui, n'importe comment. Parce que ce genre de collecte-là, je ne sais pas ce qu'ils en font. Alors, il y a des exemples où ils vous disent « il y a des frais de dossier, envoyez-nous de l'argent ». Eux m'ont répondu qu'ils ne prenaient pas d'argent, ils avaient simplement besoin des données que j'allais leur envoyer. Un CV, une photo, une lettre de motivation parlent énormément.
C'est comme fournir gratuitement des informations pour te faire scammer plus tard.
Ah mais c'est exactement ça. Je pense que c'est des gars qui sont en train de faire des catalogues, soit des catalogues de cibles pour du scam à l'amour ou du scam justement d'escroquerie aux étudiants, ou alors bah, tout simplement constituer des dossiers. On connaît en ce moment les stratégies autour de l'environnement, du photovoltaïque, en tout cas des énergies renouvelables. moi, si je reçois, on va dire, je sais pas, 10 000 CV, que dedans, j'ai une quinzaine, une cinquantaine d'étudiants travaillant dans le photovoltaïque et que, tiens, mon chien est en train de tuer le facteur, dans le photovoltaïque et que donc, du coup, eh bien, ça pourrait être des cibles potentielles en leur disant, pouvez-vous m'envoyer, je ne sais pas, vos derniers rapports de stage en tant qu'étudiant pour que je puisse vos qualités? Et en fait, je suis en train de collecter des données sur la concurrence.
Ça, entre autres, mais de toute façon, le croisement, un peu, on revient à la première nouvelle, le croisement de ces bases de données-là qui fuitent, inévitablement, va être croisé avec ce genre d'informations-là. Donc, on monter des dossiers complets sur chaque individu. Fait que, c'est un peu inquiétant à quel point le dark web est fertile en termes d'informations sur nos vies. Puis j'ai l'impression qu'ils sont même plus complets que plusieurs agences gouvernementales qui ont sur nous, du moins.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'eux travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 355 jours par an et qu'ils n'ont aucune limite. Il n'y a aucune loi qui les arrête, en tout cas, si on prenait l'exemple d'une entité étatique, mais même d'une entreprise, à la base, ça respecte la loi. Eux s'en foutent comme de l'an 40. Ils sont aussi souvent basés dans des entités géographiques qui, tant que ça rapporte de l'argent, ils s'en moquent complètement. Et puis, tant que ça fonctionne, ils jouent avec. Hein, c'est ça le problème.
Tout à fait. C'est pas la fin. Passons à la dernière nouvelle, celle de Patrick, avec un nouveau programme en cybersécurité.
Oui, le gouvernement du Québec a annoncé le programme d'innovation en cybersécurité du Québec, un programme de financement et de développement d'industries œuvrant en cybersécurité. Une bonne nouvelle, mais peut-être pas celle-là qu'on voulait. En gros, leur objectif à eux, c'est de financer des entreprises pour développer en sécurité via plusieurs universités et au BNL qui offriraient des personnes pour travailler dans le domaine, faire de la recherche, etc. Fait que c'est comme une collaboration là, entreprise et recherche au niveau universitaire. Ce qui est un peu dommage, c'est tout le côté non-entreprise, parce que dès qu'on parle de financer les entreprises, on parle simplement que c'est une subvention. Il n'y a rien de spécial. Ils vont aller jusqu'à 25 % du budget d'un projet d'innovation en sécurité qui pourrait financer. Et ça, il faut que ça soit fait justement dans le cadre que l'entreprise doit être dans le domaine de la sécurité. Donc, c'est carrément là, la subvention en cybersécurité. C'est bien pour le développement, mais on est encore loin de ce qu'on parle depuis plusieurs années, de financer des projets en sécurité et non pas juste des subventions à des entreprises, mais plus par projet. Le concept, elle n'adore pas de dire hey, « j'ai un projet, j'ai une idée, je veux faire une start-up ou juste travailler sur un projet ». Puis de donner de l'argent. Là, on parle plus simplement de donner de l'argent pour des projets en entreprise.
Alors, minimalement, c'est intéressant de voir qu'un intérêt gouvernemental à financer, c'est dans ces entreprises-là. Je sais qu'il y a plusieurs associations qui font des efforts, comme le Promosom, pour éviter de se mettre à la merci des instances étrangères. Là. Dans notre cas, c'est probablement plus les Américains qui sont notre fournisseur de cyber. D'avoir un minimum de compétences en territoire québécois et canadien n'est pas une mauvaise chose. Je pense aussi en France, aussi, il y a beaucoup d'efforts financiers du gouvernement pour favoriser cette espèce d'effervescence des connaissances dans ce domaine-là.
Et ce qui est intéressant... Pardon, Patrick.
Non, vas-y.
Ce qui est intéressant, ouais, ça vient de m'arriver là à l'esprit, tu parlais justement de financement, etc. Dans la région où je vis, Lille, dans le nord de la France, hein, pour ceux qui ne connaissent pas notre zone géographique européenne et française, il y a une subvention qui est proposée aux femmes, aux jeunes dames, ou voire même celles qui veulent se réorienter dans l'informatique. Il y a une proposition, alors je ne me souviens plus, mais je crois que c'est 25 000 euros sur 5 ans pour permettre aux femmes de se lancer dans l'informatique. Et voilà, il y a toute subvention possible qui existe à droite à gauche. Et je vais être très honnête avec vous, je préfère celle-là qui permet à des populations qui veulent se réorienter d'avoir le moyen de pouvoir le faire, parce qu'on sait qu'en plus aujourd'hui, côté éducation, c'est de plus en plus cher.
Oui, exact. Le seul point que je trouve dommage, c'est plus de financer des entreprises déjà existantes, leur donner plus d'argent pour faire ce qu'ils font déjà, versus dire je vais donner de l'argent pour créer de quelque chose de nouveau. C'est sûr que leur idée reste innovation, là, puis le programme est géré par un OBNL en innovation. J'espère juste que ça va prendre une bonne tangente et non pas plus une entreprise qui va utiliser l'argent simplement pour se faire de l'argent.
On se rend compte aussi que malheureusement, ce genre de RIM est utilisé par de très grosses sociétés pour garder un monopole ou juste parce que c'est pas la grande forme et que ça permet de rajouter un petit peu de beurre dans les épinards, comme diraient certains.
Ouais, mais comme Nick disait, on a besoin de ça au Québec et au Canada pour avoir des entreprises qui développent des logiciels de sécurité, qui développent de l'expertise et autres. Il n'y en a pas tant que ça non plus. On a beaucoup de services conseils en termes de logiciels qui fait compétition aux gros joueurs américains et puis même européens. On est un petit peu loin en arrière.
Puis profitez, il y a Huawei là, qui va avoir besoin bientôt d'un OS. Il y a du pognon à se faire. Là.
Qu'est-ce que tu dis, mec?
Oui, c'est ça, on a besoin de concentrer l'expertise. Je ne suis pas convaincu que cet effort-là est orienté comme ça. Je préfère les modèles qui marchent mieux, c'est de créer des grappes industrielles. Là, à ce moment-là, on signifie l'effort d'INSECAM est plus aligné sur le fait qu'on veut créer une expertise forte dans des zones géographiques spécifiques. Ou en tout cas, du moins, de concentrer les comme on a fait avec les jeux vidéo, finalement. Comme on devrait faire avec le AI aussi. Donc, de créer ce genre de grappe-là d'influence, de connaissance. Puis là, on va être capable, d'attirer les gens intéressants et d'amener une certaine connaissance intéressante puis d'innovation puis de faire avancer.
Oui, exact. Parce que, tu sais, si on prend l'exemple du gaming à Québec, on est rendu avec une dizaine d'entreprises qui font des jeux qui n'existaient soit pas avant ou qui étaient trop petits, pas connus, etc., puis qui ont réussi à grossir. Versus un programme comme ça, que l'entreprise existe déjà et techniquement est déjà correcte, puis là, ils vont faire un projet de plus. C'est, je ne pense pas que ça va créer ou amener plus de joueurs, comme tu viens d'expliquer.
On verra bien. De toute façon, le temps va nous dire. Je ne suis pas nécessairement pessimiste avec ce genre de projet-là. J'espère que ça va injecter un peu de vitalité dans le milieu.
Et j'espère que c'est le premier step vers ce qu'on vient de dire, vers la grosse création et plus encore créer une région ou peu importe, là, mais une expertise Québec-Canada. Ouais.
Oui. Donc, on va terminer sur cette nouvelle-là. Donc, messieurs, je vous souhaite une excellente semaine et on n'a pas fini d'être dans son univers de dark web et de ligue de fuite d'informations, de choses comme ça. Donc, autant dans le monde réel avec des sacs de McDo, autant dans le monde virtuel avec sur le dark web, on trouve des choses très fascinantes.
Bisous à tout le monde et sortez couverts!
À la prochaine!